Radio Free Gaza.
Radio.
Radio Free Gaza.
Free. Gaza. Un billet d'information intercommunautaire Bellux.
Tous les jours de la semaine, de 17h à 17h30 et le week-end de 15h30 à 16h.
En direct sur Radio Air Libre 87.7 FM.
Rediffusé sur Radio Panique 105.4 FM à Bruxelles.
Une émission qui fait le lien entre la flottille internationale pour Gaza et vous.
Retrouvez les podcasts sur le www.radiofreegaza.net.
Bonjour tout le monde, bonjour à Radio Free Gaza. Exceptionnellement, aujourd'hui, en même temps, sur les deux antennes de Radio Air Libre et Radio Panique. Aussi, je suis seul au studio, mais pas vraiment, puisque vous êtes là, chère audience. Et en plus, nous pourrons nous réchauffer le cœur avec un message de mots qui, de son bateau, nous raconte l'action d'hier de la flottille contre le navire MSC Maya. Oui, c'est ça. Après, nous aurons un entretien que Stéphanie a fait il y a quelques mois avec Jeanne Sveir sur Marwan Barghouti, que certains appellent le Nelson Mandela palestinien. Mais sans trop tarder, on va écouter d'abord mot sur son bateau.
Du coup, en fait, c'était communiqué en fait quelques jours auparavant qu'il y avait en fait un convoi qui s'appelait le MSC Maya qui transportait en fait des composants pour l'Israël en fait pour la colonie israélienne et en fait c'était une décision commune en fait on nous a proposé si ça nous intéressait de faire partie de cette action parce que ça nous permettrait de un qu'il y ait plus de visibilité et en même temps deux essayer d'atteindre les cœurs des personnes à bord pour voir si on pouvait pas leur faire changer de côté dans le sens où voir l'humanité dans ce qu'ils faisaient et au lieu de faire ça pour du profit pour l'Israël et donc du coup pour la colonie ça a été du coup mis en décision de pouvoir faire comme ça donc du coup on a travaillé sur déjà un communiquer tous les bateaux qui voulaient faire partie de cette mission là et donc deuxièmement aussi de voir comment on est en fait créé cette action et en fait du coup il y a eu beaucoup de conversations sur les risques de sécurité aussi de combien de miles aquatiques qu'on pouvait être à distance parce que c'est quand même un navire qui navigue à plus de 15 knots et donc du coup il est très dur à s'arrêter, il est énorme, je pense qu'il fait la taille 100 fois la taille de notre bateau en fait, même plus si je dis pas de bêtises et donc du coup on voyait en fait ce massive navire en fait naviguer en fait face à nous et donc du coup notre but c'était vraiment de se dévier, d'être proche d'eux et en fait de communiquer par radio en fait d'essayer de communiquer avec eux pour voir si on pouvait pas atteindre leur humanité qui n'était pas en fait on se rend compte très vite qu'ils nous insultent, qu'ils nous disent de se la fermer et donc du coup on passe à essayer de passer une communication du Rin Adjab donc du coup le dernier appel pour essayer de voir, on a essayé de plein de manières pour essayer d'atteindre cet objectif là et au final on s'est retrouvé à juste naviguer back and forth. Et du coup, en fait, ce qu'on a essayé de faire, c'est donc du coup d'essayer de les déranger un maximum sans les bloquer, parce que bloquer, ça aurait été contre nature, contre le but de ce qu'on essaie de faire, c'est grassroots movement. Le but, c'est de changer les choses dans le sens où changer le cœur et les ressentis des gens pour qu'ils puissent prendre des meilleures décisions et jamais de forcer un blocus ou un blocage complet sur le navire. Donc, du coup, l'idée, c'était vraiment de le faire. Naviguer dans un autre sens ou plutôt retourner au quai où il serait remis au dock et puis réévaluer s'il devait redécoller et puis voilà Après cela, en fait, le navire MSC Maya a décidé de continuer à traverser. Il est un peu divergé de passage de path, like ideal path, donc le passage idéal pour lui. Et du coup, voilà, on a continué à tourner, on a chanté Free Palestine, on a utilisé nos emergency horns pour créer en fait plus de mouvement. On a joué le recording, donc le message enregistré de Rin Rajab, pour essayer de, comme j'ai dit auparavant, d'essayer d'atteindre quelque chose. Mais voilà, on a été insultés. Ils nous ont dit juste de la fermer. Et puis, ils sont juste continués à naviguer. Et du coup, à partir de là, nous, on a commencé à essayer de naviguer un peu à côté. Mais vu la taille de la bête, on a décidé de revenir en arrière et donc du coup reprendre la mission initiale, ce qui est de briser le blocus à Gaza et donc du coup apporter de l'aide. J'espère que cela te convient, il n'y a pas plus à rajouter. Et du coup, un petit message pour les gens de Bruxelles, en tout cas, et les gens de la Belgique. Demain, il y a 17h45, il y a un rassemblement au Mont des Arts. C'est un rassemblement qui a pour but de se diriger vers la place Luxembourg et ensuite une marche suivante. Et cette marche est nécessaire pour montrer en fait notre mécontentement avec l'Union européenne et comment ils règlent en fait et comment ils gèrent en fait l'accord avec l'Union européenne et l'Israël et en fait que ça doit rompre ou changer en fait pour que ce soit plus équitable et en fait plus juste pour les Palestiniens, parce que malheureusement c'est les Palestiniens qui prennent à chaque fois le mauvais côté du bâton. Donc voilà, merci à tous et à très bientôt.
Bonjour Jeanne, est-ce que vous pouvez commencer par vous présenter brièvement, s'il vous plaît?
Alors voilà, je suis Jeanne Sfer, je suis professeure à l'Université libre de Bruxelles. Je suis historienne, spécialiste du monde arabe, j'ai fait ma thèse sur les réfugiés palestiniens du Liban. Je suis moi-même palestinienne et libanaise, mais également française.
D'accord, parfait. Alors la raison pour laquelle nous vous avons contacté, c'est pour nous parler un peu de Marwan Barghouti, qui est un nom qui revient assez régulièrement lors des différentes crises du conflit israélo-palestinien et à différents moments compliqués politiquement, mais qu'on connaît finalement relativement assez peu. Est-ce que vous pouvez un peu nous le présenter ?
Oui, tout à fait. Alors, Marwan Barghouti, c'est un homme politique palestinien qui est emprisonné depuis 2004 dans les prisons israéliennes. Il est emprisonné à vie pour avoir en fait été un homme politique qui a voulu l'unification. C'est un symbole qui est un symbole politique parce que c'est celui qui va œuvrer pour l'unification entre les Palestiniens de l'extérieur, les Palestiniens de l'intérieur, la Cisjordanie et Gaza. Il représentera une menace à plusieurs échelles. D'abord une menace politique parce qu'il est rassembleur et que sa figure et que son discours rassemble, parce qu'il est un peu à contre-courant également du comité central de l'OLP concernant l'unification avec le mouvement politique du Hamas, parce que c'est une figure qui rassemble les Palestiniens de manière unanime. Il est souvent comparé à la figure de Nelson Mandela, mm-hmm. À cause de son incarcération, mais également à cause de son engagement et de sa rectitude par rapport aux revendications d'une Palestine, d'un État palestinien fort et uni.
D'accord. Oui, j'allais effectivement le Nelson Mandela. Ça c'est assez connu. Ça, on lit assez, ça régulièrement dans la presse le concernant. Mais il dit aussi, je pense, oui, il a dit en tout cas qu'il ne se considérait pas comme un pacifiste.
Alors non, la lutte qui a commencé, c'était celui qui a été l'architecte un peu de la deuxième intifada. La deuxième intifada, la première intifada, c'est 1987, mm-hmm. C'est la désobéissance civile, c'est le soulèvement du peuple palestinien de manière pacifique, et c'est également un peu le retournement du regard de l'opinion publique mondiale par rapport au mythe de David contre Goliath, puisque dorénavant c'est l'enfant palestinien qui tient une fronde avec une pierre contre un tank israélien qui est représenté dans ce conflit, et ce n'est plus l'histoire qui a été véhiculée après 1967 et la débâcle des troupes arabes après la guerre de six jours, de la légende du David contre Goliath, du petit État hébreu contre la masse de voisins arabes. Là, pour le coup, en 2000, donc, Marwan Barghouti va être celui qui va dire comment il faut organiser donc, le soulèvement de la deuxième intifada. Et il a réussi pas mal à enrayer les opérations israéliennes qui se sont déroulées juste après donc, le déclenchement par Ariel Sharon de la seconde intifada, quand Ariel Sharon va marcher sur l'esplanade d'Al-Aqsa, oui, et va enflammer les territoires palestiniens parce que il va aller à l'encontre de tous les accords qui avaient été signés et qui va encourager également les opérations de construction de colonies illégales. Et donc c'était un homme qui et représentait une véritable menace puisqu'il rassemblait et qu'il avait une stratégie à long terme pour l'unification et la solidarité des factions, des différentes factions palestiniennes. Il allait parfois à l'encontre du comité central et des décisions du comité central de l'Organisation de libération palestinienne, mais il était quand même élu au comité central en tant que successeur de Fatah al-Husseini qui était décédé en 2000.
Donc c'est une figure populaire.
Ah, absolument.
D'accord.
C'est une figure populaire et c'est une figure qui va réorganiser le mouvement Fatah en Cisjordanie, qui avait été durement touché par l'occupation et qui avait connu également une période de dispersion et de division. Il va réussir à réorganiser le mouvement en Palestine en un mois et il va lancer une série de conférences en Cisjordanie et dans la bande de Gaza. C'est lui également qui va être celui qui va organiser les élections municipales qui vont se tenir également à Gaza et qui vont faire en sorte que en 2006, ces élections municipales, même après son incarcération, vont être gagnées par le mouvement Hamas à Gaza.
D'accord. Mais donc, une question intéressante, c'est aussi quelle est sa position aujourd'hui par rapport à l'autorité palestinienne ?
Est-ce que vous pouvez répéter ?
Ah, pardon. Oui, oui, bien sûr. Quelle est sa position aujourd'hui par rapport à l'autorité palestinienne d'aujourd'hui ?
Alors, aujourd'hui, sa position, elle est très affaiblie, notamment après les années d'incarcération. Oui. Mais il a toujours été critique par rapport à l'autorité palestinienne et par rapport aux collaborations que l'autorité palestinienne a dû faire pour se maintenir au pouvoir et maintenir un peu l'autorité de Mahmoud Abbas. Il a été très critique également par rapport à la corruption dont l'autorité palestinienne a été accusée à maintes reprises. Donc, il dérange à la fois certaines personnes politiques palestiniennes et il dérange surtout, et encore aujourd'hui, très fortement les autorités israéliennes.
Oui.
Mais il a une popularité très grande au sein de la population civile, qu'elle soit en Cisjordanie ou à Gaza.
Et une question qu'il faut quand même poser quand on parle de la Palestine, c'est évidemment les influences extérieures qui sont quand même très fortes. Et donc, comment est-il perçu par les Européens et par les Américains?
Alors, il est perçu, c'est quelqu'un qui va commencer à entamer le dialogue avec l'Europe et surtout avec la France. Il va être défendu par des parlementaires européens, puisque lui-même est un homme politique, il va être élu. Et donc, on va essayer, il a positions de certaines factions, comme par exemple le Parti socialiste ou le Parti communiste, qui va le soutenir et qui va à plusieurs reprises présenter des requêtes aux autorités israéliennes pour le libérer, qui demande sa libération. Par rapport aux États-Unis, c'était également, pour, en tout cas pour l'administration Biden, c'était quelqu'un qui était envisageable en tant que représentant de l'autorité palestinienne. Mais comme les Américains sont très liés à Israël et que Israël ne veut absolument pas libérer Marwan Barghouti parce qu'il représente une menace réelle et une force très grande politique d'unification du peuple palestinien. Donc les Américains sont beaucoup moins favorables pour sa libération.
Oui, une question en lisant un peu rapidement son parcours, en réfléchissant aux questions que j'allais vous poser, il y a quand même une question qui vient très vite à l'esprit, c'est comment cet homme est-il toujours vivant? Ce que je veux dire, comprenez ce que je veux dire.
Oui, oui. Cet homme a un soutien qui est très grand, qui est sa femme, et qui est un peu le porte-parole de sa cause. C'est également quelqu'un qui n'a absolument pas baissé les bras, qui a continué les études, qui a obtenu un doctorat en sciences politiques de l'université de Birzeit, quand il était incarcéré. Et son doctorat, par exemple, il a réussi à le sortir de manière secrète et à présenter sa thèse en 2002 tout à fait secrètement. Donc c'est quelqu'un qui a une très grande volonté, qui a une très grande vision et claire pour la Palestine, mais la dernière vidéo que Ben Gvir a faite de lui en août 2025 montre quelqu'un qui est quand même assez affaibli et assez amaigri et qui secouait la tête par rapport à tout ce que Ben Gvir, Itamar Ben Gvir, lui disait en le menaçant, en se moquant de lui, en lui montrant les photos de ce qu'ils ont fait à Gaza et en lui disant que de toute façon, c'est ce qui attend tout le peuple palestinien. Et donc, c'est quelqu'un qui est atteint très, très profondément dans sa dignité en tant qu'homme, mais également dans sa conscience politique. Maintenant, on sait qu'il a été torturé, on sait qu'il a fait une grève de la faim, plusieurs même, et que son parcours est un parcours de martyr vivant. Ouais. Et c'est pour ça que ça devient de plus en plus une icône et une icône unificatrice pour une Palestine libre et un État fort.
Oui, et donc ça veut dire qu'aujourd'hui, même malgré le fait qu'il est en prison depuis plus de 20 ans, on discute encore avec lui pour savoir s'il sera éventuellement sur la liste des candidats aux prochaines élections. Est-ce que ça reste un espoir, même dans les conditions que vous venez de citer, de ce qu'a été sa vie jusqu'ici, et de la difficulté de la chose?
Absolument, absolument. Ça reste un potentiel leader, ça reste le leader unique. je pense, unanimement, que ce soit en Europe ou même si l'administration de Trump va partir et qu'on revient à un régime démocratique, enfin, à ce que les démocrates reviennent et prennent le pouvoir aux États-Unis, cette solution est envisageable. N'oublions pas que quand Mandela était incarcéré et qu'il a été considéré comme terroriste au moment de son incarcération, une fois qu'il a été libéré, il a pu, tant bien que mal, reconstruire l'Afrique du Sud et décoloniser l'Afrique du Sud du pouvoir blanc.
Oui, tout à fait. Ah, oui. Oui, merci beaucoup. Avez-vous quelque chose à ajouter dont nous n'avons pas parlé? Nous n'avons pas parlé de tout, certainement, mais est-ce que quelque chose d'important?
Je voudrais rajouter une chose pour dire que depuis donc, le déclenchement de la guerre, il y a eu plus de 18 000 prisonniers. Et donc, il est le prisonnier symbolique, celui qu'on voit, mais que dans les prisons israéliennes, selon le rapport d'une organisation palestinienne sur les prisons, il y a à peu près aujourd'hui plus de 18 000 prisonniers, dont une partie d'enfants, de mineurs et de femmes. Ouais. Et donc, on a une position israélienne qui consiste à transférer, tuer, mettre en prison et la plus grande partie des prisonniers qui sont aujourd'hui dans les prisons israéliennes, ce sont pas des prisonniers de droit commun, mais ce sont des civils, beaucoup à cause de leurs opinions politiques et de leur positionnement, des manifestations qu'ils ont pu avoir. Donc, il y a eu des rafles, et faut lire la toile carcérale de Stéphanie Latt qui explique comment fonctionnent les prisons pour pouvoir comprendre également le pouvoir coercitif des autorités israéliennes sur le corps, sur l'intimité, sur la famille. Parce qu'en mettant en prison une personne, on emprisonne également sa famille et le village et toute la communauté.
Oui, absolument. Merci, merci beaucoup et merci d'avoir rappelé qu'effectivement, il y a des mineurs et beaucoup de mineurs en prison, dans les prisons israéliennes, mineurs palestiniens. Merci. Merci beaucoup, Jeanne, merci pour cet entretien.
Merci.
Au revoir.
Au revoir.
Il y a un peu d'être ici. Hein.
Avant de clôturer cette émission, une petite piqûre de rappel. Donc demain, il y a au moins deux rendez-vous en soutien de la Palestine ici à Bruxelles. Comme d'habitude, tous les mercredis à 19h à la Bourse et puis exceptionnellement. Et si vous voulez voir des célébrités du jet-set international des bonnes causes de la gauche, rendez-vous à 17h45 au Mont des Arts où il y a un départ d'une manif à 18h. Vers la place de Luxembourg. Et là, il y aura un rassemblement de 19h à 21h. Donc, on s'entend demain de nouveau à 17h sur Radio Air Libre et à 19h sur Radio Panique. Et nous aurons un entretien avec Ruben de Samidoun qui va nous parler de la nouvelle loi qui a été votée au Parlement israélien, une loi qui permet d'exécuter des prisonniers palestiniens, mais qui ne va pas toucher aux prisonniers israéliens, évidemment. Donc, merci pour votre écoute et à demain. Au revoir.
Radio Free Gaza.
Radio.
Radio Free Gaza.
Free. Gaza. Un billet d'information intercommunautaire. Bellux.
Tous les jours de la semaine, de 17h à 17h30. et le week-end de 15h30 à 16h.
En direct sur Radio Air Libre 87.7 FM.
Rediffusé sur Radio Panique 105.4 FM à Bruxelles.
Une émission qui fait le lien entre la flottille internationale pour Gaza et vous.
Retrouvez les podcasts sur le www.radiofreegaza.net.